Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Du plus petit au plus grand, quelles sont les nouvelles façons d'explorer l'océan ? Avec Jean-Luc Jung.
Des scènes de crimes des séries policières au tristement célèbre test PCR du Covid, nous nous sommes familiarisés aux fantastiques découvertes réalisées à partir de l'ADN. Mais les traces laissées dans l'eau peuvent-elles également nous enseigner des secrets de la vie océanique ? Pour le savoir, nous allons échanger avec Jean-Luc Jung, vous êtes chef de la station marine de Dinard, chercheur au sein de l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous comparez l'ADN à une encyclopédie. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que son étude permet d'élaborer un catalogue du vivant ?
Oui, c'est vrai que j'aime bien cette image de comparer l'ADN à une encyclopédie qu'on garderait bien précieusement dans chacune de nos cellules. Alors une première idée, c'est que tous les êtres vivants sont organisés de la même manière. L'information y est codée de la même manière. Alors comment est-ce qu'est codée l'information, hein, puisque toute cette molécule d'ADN, son rôle est de coder l'information pour faire les protéines notamment, hein, son rôle principal. Alors le codage est fait sous forme d'un alphabet de 4 lettres, donc c'est la succession de ces lettres qui donne l'information qui permet de synthétiser les protéines. Alors quand on a besoin de synthétiser une protéine, eh bien, si on continue l'analogie de l'encyclopédie, eh bien, on va aller photocopier une page. Dans une page, on aura l'info pour faire une protéine. Alors cette page, on peut la comparer à l'ARN messager. Hein. Et donc cet ARN messager servira à synthétiser donc, une protéine particulière. Alors nous, l'une des manières dont on travaille aussi, c'est de comparer des pages qui codent, qui permettent de synthétiser la même protéine, des pages de cette encyclopédie entre différentes espèces. Et donc on va avoir quasiment la même séquence d'ADN, quand on parle de séquence d'ADN, justement, c'est cette succession de codes de cet alphabet à 4 lettres, c'est l'information qui y est contenue. Donc si on compare la même page dans différentes espèces, on aura des séquences d'ADN qui seront très proches, mais un petit peu différentes. Très proches parce que la fonction est la même, un peu différentes parce qu'on a une distance évolutive entre les espèces.
Alors, avec l'ADN environnemental que vous allez nous présenter, l'infiniment petit qui est glané dans l'océan vous sert avant tout à connaître, identifier et observer l'infiniment grand, à savoir les grands mammifères marins, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Alors, on part du postulat que tous les êtres vivants vont libérer des traces d'ADN dans le milieu où ils sont, hein, des fragments de peau, des fesses, de l'urine, de la salive, voilà. Et donc cet ADN, on va l'appeler ADN environnemental, hein. C'est de l'ADN qui provient des êtres vivants et qui se retrouve dans le milieu. Si on arrive à étudier cet ADN, on aura des idées sur les organismes qui l'auront libéré. Le concept est relativement simple, par contre la mise en œuvre est compliquée parce que c'est des traces d'ADN et que donc elles sont difficiles à identifier et il est difficile de ne pas contaminer une expérience par une autre. Donc voilà toute la problématique. Donc on va faire des prélèvements dans l'eau de mer. Alors dans l'eau de mer, on a des protocoles bien particuliers. On va par exemple, pendant 30 minutes, on aura un bateau qui va avancer à la même vitesse dans une direction particulière. Et pendant tout ce temps, on va filtrer l'eau de mer et on va récolter dans des filtres l'ADN qui y est présent. À nous ensuite d'aller décrypter, d'aller séquencer l'ADN. Alors séquencer l'ADN, c'est déterminer la succession des 4 bases qui constituent le code justement de l'ADN, un CGT. Alors on détermine la séquence de toutes les molécules d'ADN qui sont présentes. Et si possible, on cible un gène qu'on a choisi parce qu'il nous permet, autant que possible, de distinguer les espèces. Voilà le principe. Donc c'est relativement difficile techniquement, ça implique une mise en œuvre complexe en mer. Ensuite, ça va impliquer des assignations taxonomiques. Hein. C'est un protocole assez long et complexe.
Alors justement, assez long parce que le protocole Covid nous a mal habitués à savoir que quand on faisait un test PCR, on avait le résultat en un quart d'heure. Vous, c'est pas du tout ça. On est sur quelle échelle de temps ?
Oui, on est sur plusieurs mois. C'est vrai que des manips très calibrées en biologie moléculaire, en études de l'ADN, peuvent être faites en quelques heures, une demi-journée, on en a aussi certaines. Mais là, dans ces manips-là, dans ces études d'ADN environnemental, on est sur des expérimentations qui durent plusieurs semaines, souvent plusieurs mois. Quand on construit un plan, une manip d'échantillonnage d'ADN environnemental, on va d'abord prendre beaucoup de temps pour réfléchir aux sites dans lesquels on va aller prélever notre ADN, donc les lieux d'échantillonnage. On va réfléchir évidemment aux problématiques, on va les choisir pour des problématiques particulières de conservation, de catalogue de biodiversité, hein, d'inventaire du vivant ou autre. On va ensuite essayer de faire coller ce qu'on voudrait faire et ce qui est possible financièrement, matériellement. Hein. Par exemple, on fait très souvent des campagnes côtières alors qu'on souhaiterait aussi faire des campagnes pélagiques au large. Alors on a pu par exemple il y a 3 ans faire une campagne au large grâce à une collaboration avec la Marine nationale qui nous a permis d'embarquer sur un de ces bateaux et puis on a pu faire des prélèvements au large de la Martinique. Ensuite, une fois qu'on a réalisé nos campagnes d'échantillonnage, donc on passe au labo. Alors là, on a toutes les phases d'extraction d'ADN, d'analyse par métabarcoding, c'est-à-dire qu'on va essayer de copier les ADN traces présents dans nos extraits, et si possible de toutes les espèces présentes, sans en oublier, sinon on perd une partie de notre info. Et ensuite, le résultat expérimental, c'est des séquences d'ADN, alors on va parler de reads, des lectures, enfin, c'est-à-dire un résultat de séquence, on en a plusieurs centaines de milliers, voire millions, et à nous d'aller trier là-dedans, et d'aller repérer celles qui correspondent aux organismes qui nous intéressent, qu'on va rechercher, par exemple les mammifères, les poissons, osseux, cartilagineux, et là on passe à la phase d'assignation taxonomique. L'idée, c'est qu'on va comparer toutes nos séquences qu'on a déterminées dans notre échantillonnage à des banques de référence. Alors ces banques de référence, il faut qu'on les construise avant, avec des individus, des spécimens, des échantillons dont on connaît l'espèce, qu'on détermine. Hein, donc il nous faut des spécialistes de taxonomie là, pour être sûr d'avoir la bonne espèce. Et on détermine la séquence d'ADN sur cet échantillon. On le met dans la banque de référence. Quand on a fait ça sur, par exemple, tous les cétacés, ou le plus possible de poissons ou autres, eh bien on a une banque de référence. Quand après on va arriver avec nos séquences d'ADN environnemental, on va comparer nos séquences à cette banque et voir lesquelles se ressemblent. Et c'est là que ça peut devenir compliqué parce qu'on a des séquences qui vont être similaires à 100%, mais ça peut être plusieurs espèces. Alors on peut parler des dauphins par exemple. On a plusieurs espèces de dauphins qui ont des origines évolutives récentes, qui du coup sont relativement peu différents en termes de séquences d'ADN, hein, pour certains gènes en tout cas. Chez les thons aussi, on a un peu de mal dans certains cas à discerner les espèces de thons. D'un autre côté, on peut avoir des variations à l'intérieur d'une même espèce, c'est-à-dire qu'on peut avoir des individus qui ont des séquences d'ADN différentes dans une même espèce. Alors ça, cette variation là, elle est toujours limitée, mais elle existe. Donc voilà, il faut qu'on décrypte tout ça. Hein. C'est un peu un jeu de piste, cette assignation taxonomique entre les banques de référence, ce qu'on connaît sur les espèces possibles dans la région, et puis les variations génétiques. Quand on parle de variations génétiques, c'est au sein d'une même espèce, hein, entre individus.
Au début de votre réponse, vous m'avez dit que vous faisiez surtout des expéditions côtières et non pélagiques à cause du coût du financement. Le Covid nous avait induit l'idée qu'en fait, justement, un test PCR, ça valait rien face à la révolution, je crois que ça s'appelle CRISPR, c'est cette nouvelle technologie qui permettait de diviser par 100 ou 1000 les coûts de l'ADN. Là, c'est pas ça. Malgré tout, il y a un travail humain non compressible qui fait que ça reste très cher.
Alors oui et non. Depuis le premier génome eucaryote séquencé, c'est la levure 96 et ça a été un tournant. C'est une période que j'ai vécue comme étudiant et j'ai vu à ce moment-là nos capacités techniques à séquencer de l'ADN devenir de plus en plus efficaces et donc de moins en moins chères. Donc même ces analyses de métabarcoding maintenant peuvent être relativement peu chères. Ce qui va être beaucoup plus cher, c'est toutes les manips de terrain et puis ensuite c'est le temps qu'on met dans le labo quand on analyse nos résultats de campagne, on met un effort particulier à ça parce que c'est l'essence du muséum hein, aussi de porter la taxonomie, la systématique et de porter ces sciences le plus possible et de les appliquer par exemple en identifiant des séquences d'ADN environnementales.
Alors revenons aux mammifères marins, parce que selon les espèces que vous observez, leur détection est plus ou moins aisée. Vous avez commencé à nous donner quelques exemples, mais est-ce que vous pourriez nous parler des marsouins et des dauphins ?
Donc les marsouins, c'est un petit cétacé très courant dans l'Atlantique Nord, c'est même l'espèce la plus fréquente hein, dans l'Atlantique Nord, et puis on le connaît relativement peu, parce qu'il est difficile à observer. Le marsouin est assez facile à identifier, par contre, dans des expériences d'ADN environnemental, l'assignation taxonomique, la séquence d'ADN qui correspond au marsouin en Atlantique Nord est relativement facile à faire. Donc c'est un bon exemple d'espèce qu'on peut étudier en utilisant l'ADN environnemental. Les dauphins, alors voilà, c'est un peu le contre-exemple, ça c'est des espèces qui sont souvent plus faciles à observer. Tous les mammifères remontent à la surface pour respirer, hein, donc à ce moment-là, ils peuvent tous être observés, mais certains plus discrètement que d'autres. Hein. Donc les dauphins, souvent, on arrive à les observer un peu plus facilement, et par contre, là, en identification génétique et en assignation taxonomique, on a un peu plus de mal, hein, dans certains cas.
Et c'est dû à quoi ?
Donc on a une sous-famille qui s'appelle la sous-famille des delphininés, dans lesquelles on va retrouver des espèces très connues, hein, le grand dauphin, c'est le flipper le dauphin, les dauphins communs, les dauphins bleus et blancs, tout ça c'est des espèces assez fréquentes en métropole. Et donc ces espèces ont des origines évolutives relativement récentes, qui datent d'il y a 1 million d'années à peu près. C'est des espèces récentes. Et elles ont une expansion géographique extrêmement forte, c'est-à-dire que c'est une espèce que vous allez retrouver quasiment des régions sous-polaires nord ou sous-polaires sud. Et ça veut dire qu'on a dans l'espèce une grande diversité génétique entre individus, parce qu'on a cette grande répartition géographique, et en même temps les différences entre espèces ne sont pas si fortes que ça, parce que les espèces ont divergé il y a, en fin de compte, pas si longtemps que ça. Donc on a du mal, des fois, dans ces assignations taxonomiques, à discerner ce qui est variation à l'intérieur de l'espèce et variation entre espèces.
Au-delà des cétacés, donnez-nous à mieux comprendre ce que vous cherchez à connaître du milieu marin en général.
Alors les cétacés, moi je les considère comme des espèces sentinelles, hein. Ce sont des sentinelles de la qualité du milieu. C'est des espèces qui sont mobiles, qui sont très sensibles au dérangement, au bruit par exemple. Donc pour moi leur présence peut être considérée comme un espèce de témoignage de la qualité du milieu. Hein. Donc voilà une des dimensions, l'un des intérêts. Mais plus largement, on estime qu'il y a à peu près 10 millions d'espèces sur Terre et mer, et on en connaît 10 à 20%. Donc on s'inscrit résolument dans toutes ces démarches aussi, dans de l'exploration de biodiversité, l'établissement de catalogues comme ça, de naturalistes d'espèces dans différents endroits.
Donc on revient sur la métaphore de l'encyclopédie et on voit que vous cherchez à faire progresser la connaissance du vivant, et ça m'amène à une question tout à fait candide pour terminer. Au-delà de l'indéniable plaisir de faire avancer la science et de mieux inventorier le vivant, quels avantages est-ce que l'océan peut espérer retirer de vos recherches ?
Alors c'est une gentille question, parce qu'elle sous-entend que je pourrais, moi, apporter quelque chose à l'océan. Ce serait très présomptueux de ma part. Si je peux apporter une petite pierre à un édifice beaucoup plus important de compréhension globale, c'est certainement cela que j'essaye de faire. Et notamment, ma réflexion actuelle est que le milieu naturel n'existe plus. Le milieu marin naturel n'existe plus. Et que les traces de l'homme sont partout, maintenant. Donc on doit s'habituer à penser en termes de coévolution. L'homme a des besoins, hein, il retire des bénéfices écosystémique du milieu naturel. En retour, il fait évoluer le milieu. Il faut que les deux apprennent à coévoluer dans le bon sens, et pour l'homme, dans le respect hein, du milieu naturel. Donc voilà, si je peux apporter ma petite pierre à cet édifice-là et apporter un peu ma petite pierre de connaissance qui permet à l'homme de tirer les bénéfices dont il a besoin du milieu, mais tout en le respectant le plus possible, voilà ce qui me motive.
Ça ressemble plus à une pierre philosophale qu'à une petite pierre de passer de la théorie de l'évolution à celle de la coévolution. Merci beaucoup, Jean-Luc Jung.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard, chercheur au sein de l'Institut de systématique évolution biodiversité et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.